Chapitre 3. Le livre de vie s'écrivait tout seul. Assis sur le banc, les mains dans son giron, sans remarquer qu'elle laissait des traces de suie sur sa robe, Rouge déroulait son sortilège, et la plume du corbeau mort, en suspension dans l'air, rédigeait l'histoire de la vie de Nathan. Un coude sur les genoux, l'air émerveillé, le sorcier se pencha en avant, histoire de mieux voir. Intrigué, Nietzsche approcha pour regarder les mots couvrir la première page, puis passer à la suivante. Quand elle était sèche, la plume s'immobilisait, Rouge s'en emparait, la trempait dans la coupe et la remettait face à la page en cours.
« J'ai réécrit 10 fois les aventures de Bonnie Day, » dit Nathan. « Oui, 10 fois avant d'être satisfait de ma prose. Cette méthode est plus facile. »
Sur les pages, les chroniques de Nathan relataient sa longue vie de prophète dangereux emprisonné par les Sœurs de la Lumière, d'abord pour le former, puis pour le contrôler. Des siècles durant, ces femmes avaient gardé par-devers elles ces prévisions tellement dévastatrices si on les interprétait mal. Hélas, être interprété de travers était le destin des prophéties. Avec des avertissements bien souvent trop vagues, on finissait par faciliter l'avènement de ce qu'on voulait à tout prix éviter.
« Les gens n'ont jamais compris la leçon, » maugréa Nathan. « Richard a eu raison de se méfier pendant si longtemps des prophéties. »
« Je ne suis pas étonné qu'elles aient disparu de ce monde, » approuva Nietzsche. Les mots s'alignant souvent trop vite pour que quiconque puisse les lire, les pages du livre de vie se tournèrent toutes seules. Au passage, Nietzsche grappilla quelques anecdotes sur la vie de Nathan, qu'elle connaissait déjà pour la plupart. En chemin, qu'elle le lui demande ou non, il n'avait pas été avare de récits. Alors qu'un nouveau chapitre commençait, le vieil homme se pencha davantage en avant.
« Voilà une partie intéressante. »
Au palais, les sœurs s'étaient parfois apitoyées sur le sort du pauvre prisonnier. Pour le réconforter, il leur arrivait de lui fournir des compagnes d'une nuit recrutées dans les meilleurs bordels de Tanimura. À en croire le livre de vie, Nathan appréciait la conversation de ces femmes simples aux rêves et aux désirs ordinaires. Un jour, il avait confié une prophétie terrifiante à une fille de joie crédule. Horrifiée, elle avait quitté le palais des prophètes en hurlant. En ville, elle avait répété partout la prédiction. De fil en aiguille, ça avait provoqué une sanglante guerre civile. Un drame à cause de confidences sur l'oreiller à une prostituée que le prophète ne reverrait jamais plus. Les sœurs avaient sévi, réduisant encore les libertés de leurs prisonniers. Pourtant, leur avait-il révélé, il ne s'agissait pas d'une erreur, mais d'un plan pour éliminer un jeune garçon destiné à devenir un tyran 100 fois plus meurtrier que ses émeutes.
Une guerre civile circonscrite semblait un prix acceptable pour empêcher des massacres,
souffla le vieil homme alors que le livre de vie continuait à s'écrire. De nouveau à sec, la plume s'immobilisa. Rouge répéta son manège et la rédaction reprit. L'histoire de Nathan continua. Du radotage, selon Nietzsche. Et la plume magique n'en oublia pas une miette. Bien entendu, la plupart des aventures du sorcier avaient eu lieu après son évasion du palais des prophètes. Sa courte histoire d'amour avec Clarissa, tragiquement achevée. Sa collaboration avec Richard pour vaincre l'ordre impérial et l'empereur Jagang. Son combat contre Hannis Ark et le mort-vivant Sulakan. Plus vite que Nietzsche l'aurait cru, le gros livre se remplit. Sur la dernière page, les mots relataient le long voyage du prophète en compagnie d'une magicienne, puis sa rencontre avec une voyante des terres noires. La coupe étant presque vide, tout s'arrêta et la plume, soudain inerte, tomba doucement sur le sol.
« Merci, Rouge !»
souffla Nathan, impressionné par sa propre histoire. Refermant le livre, il sourit en voyant que son nom figurait sur la couverture et sur le dos.
Je garderai ce livre sur moi et je le lirai de temps en temps. Sûrement d'autres personnes voudront en prendre connaissance et les bibliothèques en demanderont une copie.
Rouge secoua la tête.
Ce ne sera pas possible, Nathan Rale.
Elle saisit l'ouvrage.
J'ai accepté de créer un livre de vie pour toi, mais... « Quand ai-je dit que tu le garderais ? Ce texte restera avec moi, C'est mon paiement.
Mais, balbutia Nathan, je ne voyais pas les choses comme ça et...
Tu n'as pas demandé le prix, sorcier ? Souffla Nietzsche. Après une si longue vie, on devrait être plus malin.
Rouge retourna dans sa maison, en laissant le livre sur le banc, comme pour défier Nathan de s'en emparer et de filer avec. Ce qu'il ne fit pas. Elle revint avec un autre livre, plus petit, moins épais et vide.
« Je prends ton histoire, sorcier, mais en échange, je te donne un objet beaucoup plus précieux. Un nouveau livre de vie, chargé de potentiel, pas de vieilles anecdotes. Ton passé m'appartient, mais en même temps que cet ouvrage, je t'offre le reste de ton existence. Vis-la comme tu voudrais qu'elle soit écrite. »
Nathan prit le livre sans cacher sa déception.
« Je dois te remercier, j'imagine. »
« Ces derniers temps, j'ai appris que vous serez très important pour l'avenir, la magicienne et toi. »
Rouge approcha de Nietzsche, beaucoup trop au goût de cette dernière, et baissa la voix.
« Tu es sûr de ne pas vouloir un livre de vie? Il y a des choses que tu devrais apprendre. »
J'en suis certaine, voyante. Mon passé me regarde et mon avenir, je compte bien l'écrire à ma façon, pas sous le contrôle ou l'influence de quelqu'un comme toi.
Je tenais à te faire la proposition.
Une lueur d'amusement dans les yeux, mais le front plissé d'inquiétude, Rouge se détourna.
On t'ordonnera sans doute encore de faire certaines choses, magicienne. Que tu le veuilles ou non, en entendre parler ne change rien.
Nathan ouvrit son nouveau livre de vie et fut surpris de découvrir qu'il n'était plus vide.
« Il y a des mots sur la première page. 2. Cole Adair. Rouge, je ne connais pas ce... C'est un nom? Un lieu? »
« Le vecteur dont tu auras besoin, sorcier. »
Rouge se pencha sur son feu et raviva les braises avec son os noirci.
Tu dois trouver Cole Adair au cœur de l'ancien monde, Nathan Rall. Et toi aussi, Nietzsche.
Nous avons une mission dans les terres noires,
objecta la magicienne.
Vraiment? Laquelle? Errer sans but parce que tu aimes trop Richard pour rester à ses côtés? C'est une quête sans intérêt, une démarche de lâche.
Nietzsche sentit qu'elle s'empourprait.
Ce n'est pas vrai.
« Après nos dernières grandes batailles, » intervint Nathan, « j'entendais revenir ici pour aider les gens. »
« Une autre quête stupide. Où que tu ailles, des malheureux auront besoin d'aide. Les terres noires, l'ancien monde, quelle différence? Ne préférerais-tu pas sauver l'univers et te sauver toi-même ?»«
Tu dis n'importe quoi, voyante, »
lâcha Nietzsche, plus agacée que furieuse.
« N'importe quoi ? » Nathan râle. Tourne la page de ton nouveau livre de vie. »
Par curiosité, le sorcier obéit. Se penchant, Nietzsche vit qu'un texte figurait sur la deuxième page. « L'avenir et le destin dépendent à la fois du voyage et de la destination. Cole Adair est très loin au sud, dans l'ancien monde. À partir de là, le sorcier verra ce qu'il lui faut pour redevenir entier et la magicienne devra sauver le monde. »
« Sauver le monde ?» répéta Nietzsche. « Encore ? J'ai déjà fait ça trop souvent. »
Nathan sembla plus perplexe.
« Voyante, pour toi c'est un jeu, une blague que tu nous fais. Pourquoi devrais-je redevenir entier ? Ne le suis-je pas déjà ?»
Nathan toucha son bras qui lui parut agréablement intact.
« Ce n'est pas à moi de le dire, » répondit Rouge. « Regarde ce qui est écrit. Ce chemin est déterminé depuis longtemps. »
« Les prophéties n'existent plus, » dit Nietzsche. « Les vieilles prédictions ne signifient rien. »«
Vraiment ?» demanda la voyante. « Même celles qui furent faites quand les prophéties étaient aussi réelles que le vent et le soleil ?»
Alors que Nathan fléchissait les doigts, comme pour s'assurer qu'ils étaient tous là, Rouge fit de nouveau osciller sa crinière.
« Plus que quiconque, tu devrais savoir qu'il est dangereux pour les profanes d'interpréter les prophéties. »
Nietzsche resserra les lacets de ses bottes et tira sur le devant de sa robe noire.
« Comme je l'ai déjà dit,
fit-elle sans cacher son insensibilité aux thèses de la voyante.
Il n'existe plus de prophétie. Comment peux-tu savoir où nous devons aller ?
Rouge eut un sourire énigmatique.
De temps en temps, je vois encore des choses. Ou est-ce une révélation que j'ai eue longtemps avant le changement stellaire ? Ce que je sais, c'est que tu tiendras compte de mon avertissement, si tu te soucies vraiment du Seigneur Hal et de son empire. Kolader, n'oublie pas, magicienne. Tous les deux, vous devez y aller, autant pour le voyage que pour la destination. Si vous ne le faites pas, toute l'œuvre de Richard Hal aura été inutile. Mais ce que j'en dis, à vous de voir.
Nathan glissa le livre de vie dans la sacoche accrochée à sa ceinture et la referma.
Ma mission d'ambassadeur itinérant est d'aller partout où on en sait long sur les métamorphoses du monde.
À travers le feuillage du chêne, il sonda le ciel qui s'assombrissait.
Mais le chemin, voyante, c'est à nous de le choisir, qu'il aille vers l'ancien monde ou dans les terres noires.
Nietzsche n'en crut pas ses oreilles.
Sorcier, tu vas prendre au sérieux les fadaises de cette femme ?
Nathan passa une main dans ses cheveux blancs.
Veux-tu que je te dise ? J'en ai plus qu'assez des terres noires et de leurs éternelles ténèbres. L'ancien monde me semble plus ensoleillé.
Nietzsche réfléchit. Elle avait suivi le vieil homme, mais sans objectif particulier, à part aider Richard à consolider son pouvoir et à accélérer la naissance d'un âge d'or.
« Le Seigneur Hal, dit-elle, m'a ordonné d'explorer son empire et de l'informer de ce que nous découvrirons. Kolader fera aussi bien l'affaire qu'un autre endroit. »«
Et même bien mieux si tu sauves le monde, »
souligna Rouge.
« Une idée absurde. »
Comment pouvait-on sauver le monde en allant dans un endroit inconnu ? En revanche, les arguments du sorcier se tenaient. L'ancien monde, naguère fief de l'ordre impérial, était désormais sous la juridiction de Dara. Ses habitants seraient heureux d'apprendre qu'ils étaient libres et que le Seigneur Hal entendait respecter leur souveraineté. Si elle y allait, Nietzsche pourrait résoudre d'éventuels problèmes et éviter des soucis à Richard.
Nathan Hal, je t'accompagnerai.
Aussi pressé de filer qu'il avait été de rencontrer la voyante, le prophète se leva dans une envolée de cap.
Nietzsche se montra plus circonspect. « Avant de partir pour le sud, nous devons informer le Seigneur Hal de notre plan. Hélas, nous n'avons aucun moyen de communiquer avec lui. »
Richard et Callan ne devaient pas s'inquiéter si leurs émissaires disparaissaient pour un temps.
« Une fois à Tanimura, nous trouverons un moyen de lui envoyer un message, » dit Nathan.
« Je peux m'en charger, »
proposa Rouge à la grande surprise de ses interlocuteurs. Ramassant le corbeau mort, elle lui écarta les ailes, redressa son cou brisé et ferma les yeux pour se concentrer. L'oiseau frémit. Quand Rouge le posa sur ses pattes, il tituba, le cou toujours imparfaitement aligné. Pas vraiment vivant, il bougeait comme une marionnette. Pourtant, il déploya ses ailes comme s'il voulait les alléger du poids de la mort.
« Arrache une feuille de ton livre de vie, Nathan Hal, »
dit la voyante. Elle ramassa la plume et la tendit au prophète.
« Il doit rester assez d'encre pour un message au Seigneur Hal. »
Nathan écrivit quelques mots sur la feuille arrachée. Quand il eut fini, la voyante enroula le morceau de parchemin et le fixa à la patte encore raide du corbeau.
« Mon oiseau est assez ranimé pour atteindre le palais du peuple. Le Seigneur Hal saura où vous allez. »
Rouge propulsa l'oiseau vers le ciel. Menaçant d'abord de s'écraser au sol, le corbeau mort prit finalement son envol, s'éleva au-dessus du chêne géant et disparut dans le ciel nocturne. Chasseur redressa les oreilles. Huma l'air, puis fila vers la forêt. Entre les arbres, Nietzsche aperçut la fourrure d'une créature au moins aussi grande qu'un cheval, puis elle distingua la silhouette du familier qui semblait ravi de retrouver ce compagnon géant. Ensemble, les deux félins disparurent dans les ombres.
« La mère de chasseur se joint souvent à nous pour le dîner, » dit Rouge avec un étrange sourire. « Vous restez ?»
Après un regard sur les crânes et les autres ossements, Nietzsche décida de ne plus prendre de risques.
« Non, nous devons partir. »«
Merci, voyante, »
lança Nathan alors qu'il s'éloignait avec la magicienne. Même en pleine nuit, dans cette forêt hostile, il serait plus en sécurité qu'avec Rouge. Sans se soucier des crânes, le prophète partit d'un pas guilleret.
« Une grande aventure en perspective !» jubila-t-il. « Une fois sortis des terres noires, nous prendrons la direction de Tanimura. Dans le port de Graffan, nous trouverons sûrement un bateau en partance pour le sud. Ensuite, Koladère, puis tout ce qui s'en suivra. »
Richard l'ayant chargé d'explorer les frontières de son empire, Nietzsche estima que le sud lointain correspondait à cette définition.
« Pour nos grandes ambitions, » dit-elle, « le reste du monde semble un cadre approprié. »
Quand les visiteurs eurent disparu dans la forêt, Chasseur revint s'asseoir à côté du feu. Un peu plus tard, aussi grande qu'un ours, sa mère à la fourrure couleur cannelle le rejoignit. Son rejeton voulut jouer, mais la féline géante le repoussa et tourna sa grosse tête vers Rouge, qui la gratouilla entre les oreilles en insistant avec les ongles des deux mains. Extatique, la bête ronronna puis repartit d'un pas lourd vers la forêt. La voyante s'empara du livre de Nathan. Un gros ouvrage, en vérité. Car une vie, même assommante, fourmillait de rebondissements quand elle durait 1000 ans. Pourtant, les chroniques de Nathan Rahl venaient à peine de commencer avec la véritable mission du vieux sorcier et de sa compagne. Même si Nietzsche avait refusé de la laisser créer son livre de vie, Rouge avait longtemps été une oracle. De ces temps-là, elle gardait la certitude que la vie de la magicienne, passée et à venir, serait le sujet de bien des livres. Et la magicienne devra sauver le monde. Le livre de Nathan en main, Rouge écarta le rideau de cuir, se baissa et entra dans sa petite maison éclairée par des bougies en graisse humaine plantées dans des crânes. La première pièce était minuscule, mais dans le mur du fond, correspondant au versant de la colline, une deuxième porte se découpait. La voyante entra dans sa véritable demeure, vaste complexe de tunnels et de salles creusées à même la roche. S'arrêtant devant une série d'étagères lestées de livres similaires à celui de Nathan, elle resta un moment songeuse. Au fil des siècles, combien de livres de vie avait-elle accumulés? Bizarrement, chacun de ses ouvrages s'achevait sur les mêmes phrases énigmatiques, de quoi en avoir les sangs glacés. L'avenir et le destin dépendent à la fois du voyage et de la destination. Koladère est très loin au sud dans l'ancien monde. À partir de là, le sorcier verra ce qu'il lui faut pour redevenir entier, et la magicienne devra sauver le monde. Des mots identiques dans tous les livres, des centaines, voire des milliers d'ouvrages délivrant le même message. Rouge rangea la biographie de Nathan Rahl dans un emplacement vide. Oui, il existait d'innombrables livres de vie. Un pour chaque crâne enfoui ou empilé tout autour de son domaine.